Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Depuis que les hommes ont tourné leur regard vers le ciel et essayé de comprendre cet espace dans lequel notre planète évolue, ils vont de surprise en surprise. Ils n'en finissent plus de découvrir de nouvelles lunes aux planètes du système solaire, de nouvelles planètes qui tournent autour d'étoiles lointaines. Et puis il y a ces objets célestes aux propriétés physiques déroutantes, les trous noirs. Encore plus fort, une hypothétique matière noire dont on ne sait rien ou presque, mais qui semble nécessaire pour justifier la vitesse de rotation des galaxies. L'astrophysicien Hubert Reeves a passé sa vie à essayer de comprendre les mystères de l'univers et à partager ses connaissances avec le grand public. Il est l'invité de La Tête au Carré en compagnie de Pierre Barthélémy, journaliste au journal Le Monde, qui propose depuis hier dans les kiosques la collection Voyage dans le cosmos, dont nous sommes partenaires. Pour adresser une question à nos invités, franceinter.fr. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons le docteur Dominique Dupagne, qui lui s'intéressera aujourd'hui à l'orgasme féminin. Et pour la une de la science, Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Daniel.
Aujourd'hui, une cartographie du stockage du carbone après une exploitation forestière.
Oui, cap sur l'Amazonie, l'un de ses poumons de notre planète, et en particulier sur des parcelles de forêt qui ont subi des abattages d'arbres. Comment et à quel rythme ces forêts récupèrent-elles leur capacité à fixer le CO2? On en discute avec l'écologue Bruno Hérault.
Voilà pour le sommaire éclectique de cette Tête au Carré réalisée par Céline Hila et préparée par Camille Jusot.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Bonjour Hubert Reeves et Pierre Barthélémy.
Bonjour, bonjour.
Hubert Reeves, astrophysicien et auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation. Mais là, cette fois-ci, c'est toute une collection d'ouvrages de vulgarisation que vous parrainez, Voyage dans le cosmos, avec le premier livre de cette collection qui porte sur la matière noire. Une matière encore à l'existence encore incertaine, ou on est de plus en plus sûr qu'elle existe?
Je dirais, on peut dire quasiment sûr. On n'est jamais absolument sûr en science.
Pourtant, on ne la détecte pas, on ne la voit pas.
On la détecte très bien. On la détecte. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est sa nature. Ouais. La question de savoir si elle existe aujourd'hui, je dirais, c'est à peu près sûr, parce qu'il y a plusieurs façons de la mesurer, ça donne le même résultat. Donc pour nous, ça dit quelque chose. Ouais. Mais est-ce que c'est absolument sûr? Encore une fois, en science, rien n'est jamais absolument sûr.
Pierre Barthélémy, vous ne pouviez pas rêver mieux, hein, qu'Hubert Reeves pour parrainer cette nouvelle collection Voyage dans le cosmos.
Non, c'est vrai que Hubert Reeves, depuis près d'un demi-siècle, c'est la voie de la vulgarisation en francophonie, la vulgarisation pour l'astrophysique. Je rappelle quand même Patience dans l'azur, Poussière d'étoiles, etc.
Ouais, Patience dans l'azur en 1981, à une époque où l'astrophysique et l'astronomie n'étaient pas aussi en vogue dans les médias.
Je dirais que si, ça s'était quand même déjà un petit peu lancé, puisque en fait depuis les grandes périodes d'exploration, que ce soit la Lune et, ou même avant, l'exploration du système solaire proche par l'homme, que ce soit par des humains ou par des sondes, les sondes Voyager, etc. C'est cette époque-là en fait. Donc c'est le moment où effectivement tout décolle. Et Hubert Reeves en a fait partie.
Nous partons donc pour un voyage dans le cosmos avec l'astrophysicien Hubert Reeves et le journaliste au Monde Pierre Barthélémy cet après-midi. Et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. À la une de la science aujourd'hui, une plongée dans la forêt amazonienne. Aujourd'hui, nous partons donc vers ces forêts tropicales perturbées par l'exploitation forestière. Un collectif de 25 chercheurs du CIRAD, le Centre de Recherche Agronomique pour le Développement, s'est intéressé aux capacités de récupération du CO2 par la forêt après l'abattage d'une partie des arbres. Leur étude parue dans la revue eLife s'est déroulée dans la forêt amazonienne qui, à elle seule, contient près de un tiers de la totalité du carbone stocké par les forêts. Bruno Hérault, vous êtes l'un de ces 25 scientifique. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes écologue, spécialiste des forêts tropicales au CIRAD. Quel est le but de votre étude exactement?
Oui, donc l'objectif de ce travail, il était relativement simple, c'était d'estimer et de prédire la capacité de ce grand massif forestier, de cette forêt amazonienne, à récupérer le carbone qui a été relâché dans l'atmosphère lors d'une perturbation. Et la perturbation majeure en Amazonie, c'est l'exploitation forestière.
À distinguer de la déforestation, hein, Bruno Hérault.
Absolument. l'exploitation forestière, on dit en zone tropicale qu'elle est sélective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va exploiter quelques arbres par hectare et qu'on va laisser les autres sur place. Donc c'est pas du tout une coupe rase.
D'accord. Et qu'est-ce qui, au moment justement de cette exploitation forestière, relâche du CO2 dans l'atmosphère?
Alors voilà, c'est-à-dire que pour aller exploiter les 5-10 individus par hectare d'arbres d'essence commerciale, eh ben on va générer des dégâts, donc du bois mort, des arbres qu'on va endommager, des branches, des feuilles, des rameaux, etc. Et ce sont ces dégâts qui vont se retrouver par terre, qui vont se décomposer et qui vont relâcher du carbone dans l'atmosphère.
En grande quantité, on peut le quantifier ou voir ce que ça représente à l'échelle d'autres émissions de CO2, par exemple?
Oui, ça représente quelque chose du même ordre de grandeur, moindre, mais du même ordre de grandeur que le carbone qui est relâché par déforestation en Amazonie.
D'accord. Donc vous, ce que vous avez voulu comprendre, c'est si cette émission de CO2 pouvait être compensée et à quelle vitesse, c'est ça?
Alors, compenser, c'est-à-dire on voulait comprendre qu'est-ce qui se passe après l'exploitation, c'est-à-dire quantifier le carbone qui est émis lors de l'exploitation, c'est relativement simple. Par contre, ce qu'on comprend beaucoup moins bien, et ce qu'on arrive moins à prédire, c'est une fois que la forêt a été exploitée, on va la laisser tranquille, et cela pendant 30, 40, 50 ans, 60 ans, même en Guyane française, c'est-à-dire qu'on va pas la réexploiter. Et pendant cette période, en fait, l'écosystème va stocker du carbone grâce à la croissance des arbres qui ont survécu à l'exploitation et donc qui sont restés dans la forêt, et grâce à de nouveaux arbres qui apparaissent naturellement par régénération naturelle dans la forêt.
Donc tout l'objet de votre étude, c'était de comprendre si ces arbres qui repoussent et puis les arbres qu'on a laissés captent peut-être davantage de gaz carbonique que ne le faisait la parcelle avant qu'on y touche.
Alors, le bilan carbone d'une forêt, c'est pas compliqué. C'est la différence nette entre ce qui rentre par photosynthèse et ce qui ressort par toutes les respirations de l'écosystème. Et quand on a exploité la forêt, en fait, on a enlevé des arbres de la forêt, donc on a diminué la quantité de carbone qui sort de la forêt par respiration. Mais par contre, les arbres qui sont là vont pousser plus rapidement et donc on va augmenter fortement la photosynthèse. Mmh. Et donc pendant un certain laps de temps qui peut durer plusieurs décennies, la forêt exploitée va stocker du carbone plus qu'une forêt naturelle.
Oui. D'accord. Donc elle stocke un peu comme si elle rattrapait, elle stocke un peu plus de carbone qu'elle ne le faisait avant qu'on y touche.
Exactement. Et au bout de quelques décennies, elle va retrouver son niveau de carbone initial.
Agnès.
Et comment vous avez fait alors pour sur le plan expérimental?
Alors sur le plan expérimental, ça regroupe un collectif de 25 chercheurs et d'une quinzaine d'institutions de tous les pays amazoniens. Et donc on a travaillé avec des dispositifs expérimentaux qui ont été mis en place il y a 10, 20, 30, 40 ans et sur lesquels la forêt a été perturbée intentionnellement. Avec différents niveaux de perturbation, on a enlevé 10, 20, 30, jusqu'à 60% de biomasse. Et depuis 30, 40, 40 ans, on a mesuré l'évolution du stockage de carbone dans ces écosystèmes. Et c'est avec ces informations qu'on a pu paramétrer un modèle qui nous a permis d'envisager le comportement de l'écosystème à l'échelle amazonienne.
Une étude importante qui s'est vraiment déroulée donc sur plusieurs années, on s'en rend compte, Agnès.
Et ce modèle, quelles sont les conclusions de toutes ces mesures? Voilà. Et puis ce modèle, à quoi va-t-il servir alors?
Alors, la première information, c'est que toutes les zones de l'Amazonie n'ont pas le même pouvoir, la même capacité à rattraper ce carbone perdu. Il y a des zones, par exemple le nord de l'Amazonie ou l'ouest de l'Amazonie, où le carbone perdu va être récupéré plus rapidement. Et des zones comme tout le sud de l'Amazonie, toute l'Amazonie brésilienne, où ça va prendre beaucoup plus de temps. Et donc après, l'étape suivante, ça a été de réfléchir pourquoi on avait ces différences de vitesse de récupération de carbone. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le sud de l'Amazonie, qui est une zone qui est déjà naturellement soumise à des épisodes récurrents de stress hydrique, en fait, ça engendre un stress récurrent dans l'écosystème qui fait que il n'arrive pas à récupérer aussi rapidement que s'il n'était pas stressé le carbone perdu.
Est-ce que le fait de savoir ça peut nous aider? On le sait, hein, le gaz carbonique, c'est l'un des fameux gaz à effet de serre qui est responsable du changement climatique. Est-ce que le fait de savoir quelles sont les régions dans lesquelles les arbres absorbent davantage ce carbone va permettre d'en stocker davantage et donc de un peu baisser le taux de carbone?
Alors, évidemment, c'est notre objectif, et dans le collectif, l'intérêt, c'est qu'il y a à la fois des chercheurs, mais aussi des représentants des services forestiers de tous les pays amazoniens. Et notre objectif, c'est de dire, voilà, avec ces résultats, maintenant, on est capable de dire, il vaut peut-être mieux exploiter ici ou là, parce que là, on est sûr que l'écosystème va pouvoir récupérer rapidement, alors que dans d'autres endroits, c'est plus risqué. Parce que ça va être plus lent. Alors maintenant, le pas supplémentaire, c'est de traduire ça dans les politiques publiques.
Agnès, une dernière question ?
Vous mettez en lumière le rôle important des arbres survivants après une exploitation forestière. Donc du coup, est-ce qu'il faut aussi que les techniques d'abattage s'améliorent pour créer le moins de dégâts possible, puisque ces arbres survivants captent mieux, fixent mieux le carbone que les autres ?
Absolument. En fait, les arbres survivants, parce qu'ils sont là et donc parce qu'ils sont déjà adaptés à l'écosystème, ont une capacité de stockage de carbone qui est plus importante que les arbres qui vont arriver dans le système. Et d'autant plus que les nouveaux arbres qui vont arriver dans le système sont souvent des espèces pionnières. Et ces espèces pionnières, c'est souvent des espèces qui poussent rapidement. Et on sait qu'elles sont très sensibles au stress hydrique, au changement climatique. Voilà. Et donc c'est assez risqué de parier sur ces nouveaux arrivés pour récupérer du carbone.
Merci Bruno Hérault. Vous êtes en Guyane actuellement ?
Et non, je profite des congés en métropole.
D'accord, très bien. Mais cette étude a bien été menée en forêt amazonienne.
Absolument.
Merci à vous et Agnès, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, c'est confirmé, 2016 est l'année la plus chaude depuis 1880, date qui marque le début des relevés sur le climat. La température enregistrée à la surface des océans atteint 15 degrés selon l'Organisation météorologique mondiale, soit une hausse de 1 degré par rapport à la moyenne au XXe siècle. En cause, le réchauffement climatique, mais aussi notamment le phénomène El Niño qui a provoqué plusieurs sécheresses. C'est le félin le plus rapide de la Terre, avec des pointes à 130 km/h, mais cela ne suffit pas à le protéger. Le guépard se meurt. L'espèce est bien plus menacée d'extinction que nous le pensions, concluent les auteurs d'une étude parue dans la revue américaine PNAS. Rien qu'au Zimbabwe, le nombre de guépards est passé de 1200 à 170 en 16 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 7100 sur la planète, quasiment tous en Afrique. Si les guépards sont devenus si vulnérables, c'est notamment parce que les trois quarts d'entre eux vivent hors des zones protégées. Et enfin, chaque samedi à 19h30 sur Arte, il nous aidait à décrypter les conflits et la complexité des relations internationales à partir d'une carte de géographie dans son émission Le Dessous des Cartes. On a appris ce matin le décès de Jean-Christophe Victor à l'âge de 69 ans. Ce passionné de géopolitique avait été diplomate en Asie, enseignant, conférencier, avant de créer en 1991 avec Virginie Resson le laboratoire d'études politiques et d'analyse cartographique. Ethnologue de formation, Jean-Christophe Victor avait aussi participé à la création du premier musée français sur les mondes arctiques et antarctiques. Il était le fils de l'explorateur polaire Paul-Émile Victor. Dans un instant, on part en voyage dans le cosmos avec l'astrophysicien Hubert Reeves et le journaliste au Monde Pierre Barthélémy.
Des traces d'audace se placent devant les deux, en face d'un jeu si contagieux, ma peine s'efface peu à peu.
And I got no shame.
Si tu peux, ne cache pas la honte dans tes yeux, raconte-moi d'un long adieu cet acte lent et douloureux. Dans tes yeux, pleurs joyeux, nos larmes sécheront le feu.
And they got no shame.
Dans tes yeux, des traces d'audace placent devant les deux. En face d'un jeu si contagieux, ma honte s'efface peu à peu.
Dans tes yeux, c'était Gashpati et Gonzalez dans La Tête au Carré sur France Inter.
La Tête au Carré, Daniel Fievé.
Et nos invités aujourd'hui sont l'astrophysicien Hubert Reeves et Pierre Barthélémy, journaliste au journal Le Monde. Voyage dans le cosmos, c'est le titre de la nouvelle collection que sort le journal Le Monde, avec pour parrain prestigieux Hubert Reeves. C'est une collection qui vous va comme un gant, hein, Hubert. Toute votre vie, vous n'avez eu de cesse de raconter et d'expliquer au grand public les connaissances les plus pointues en astrophysique.
Oui, c'est tout à fait. Oui, j'ai été très content d'accepter cette proposition.
Il y a un vrai plaisir de conteur à nous raconter l'espace depuis tant d'années.
Oui, ça c'est vrai. Je dois ça à ma grand-mère qui était une grande conteuse et qui m'a injecté le virus.
Ouais. Pierre Barthélémy, présentez-nous un peu cette collection Voyage dans le cosmos, dont le premier numéro est déjà en kiosque, hein,
voilà,
sur la matière noire.
Le premier numéro matière noire. Et on va tout de suite dire que le prochain, ce sera sur les trous noirs. Donc c'est une collection qui est à la fois rigoureuse, puisqu'elle a été rédigée en grande partie sous la supervision de scientifiques espagnols, et ambitieuse, puisqu'effectivement l'idée c'est quand même d'aborder les très grands problèmes cosmologiques, de répondre aussi à des grandes questions existentielles pour chacun de nous, d'où est-ce qu'on vient et aussi où est-ce qu'on va. Donc on pose les grandes questions de l'astrophysique et de la cosmologie. On s'intéresse tout le temps à l'univers, comment il a commencé, et puis aussi peut-être aussi comment il terminera. Donc,
Le vide et le néant, qu'y avait-il avant le Big Bang, hein, des grandes questions existentielles, l'espace-temps quantique, hein, y a des sujets pointus dans cette...
Ah non, mais quand je vous dis que c'est rigoureux et ambitieux, c'est vrai.
Ah oui, les univers parallèles, et donc au sommaire du deuxième numéro qui sortira la semaine prochaine, les trous noirs qui fascinent autant les physiciens que les auteurs de science-fiction.
Alors c'est ça la porte des étoiles. C'est quoi votre problème ?
Eh bien, on l'a ouverte en direction d'une planète qui se fait aspirer par un trou noir. C'est très embêtant et très dangereux.
Ouais, pourquoi ?
Les choses ont tendance à s'y engloutir.
J'ai pris la liberté de fermer l'iris, mon colonel.
Capitaine Carter ?
Qu'y a-t-il, lieutenant ?
Le champ a pris de l'expansion. J'obtiens près de 7G de pression près de l'iris.
Gardez vos distances, lieutenant ! Pour une mystérieuse raison, la déformation de notre espace-temps semble être en avance sur le champ de gravité plutôt que d'en être la suite logique. C'est probablement une réaction directe générée par la porte des étoiles, mais je n'en suis pas sûre.
Inutile de me faire croire que vous avez tout compris.
L'important, messieurs, c'est que le temps passe ici beaucoup plus lentement qu'à l'extérieur de la base.
Le temps, mais c'est du temps ?
Non, mon colonel, pas dans la relativité. Et avec l'intense force de gravité qui est produite par le trou noir, le temps ralentit très vite.
Extrait de la série Stargate 1 SG1 dont notre réalisatrice Céline Hila est une fan inconditionnelle. Hubert Reeves, un peu plus scientifiquement, c'est quoi un trou noir ?
Un trou noir, je peux vous donner la recette.
Oui.
Alors, vous prenez le soleil. Imaginez un malin génie qui a de grandes mains.
Oui.
Et qui s'approche du soleil. Le soleil, il fait 1 million de kilomètres de diamètre. Ce génie écrase le soleil dans ses mains et le réduit à un volume avec 3 kilomètres de diamètre. Eh bien, vous aurez un trou noir. Si cela arrivait cette nuit au soleil, demain matin, pas de jour, pas de lever du jour, un trou noir a une densité, une compaction tellement puissante qu'il retient la lumière à sa surface. La lumière qui essaie de s'en éjecter, elle retombe comme l'eau des fontaines. Donc un trou noir, c'est ça. Nous savons maintenant qu'il y en a de très grandes quantités et qu'ils jouent un rôle très important dans notre univers.
Et de toutes les tailles, hein, si j'ai bien compris.
De toutes les tailles, les plus petits auraient la dimension d'un grain de sable, et même plus petits. Les gros, eh bien, il y en a qui ont des millions, des milliards de kilomètres de diamètre.
On en a un à l'intérieur de notre galaxie, au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il est gros, oui. Il est petit.
Alors, ça ressemble à quoi ? Maintenant, on pense que toutes les galaxies ont un trou noir. Nous en avons un. On mesure autour de 3 millions d'années, de 3 millions de masses solaires. Et on sait qu'il est là, non pas parce qu'on le voit, on le voit pas, on voit pas les trous noirs, mais parce qu'il y a des étoiles qui tournent autour, comme autour de notre Soleil, il y a des planètes qui tournent. Et quand on voit les planètes tourner autour du Soleil, on peut en déduire que le Soleil est là, ça on le sait déjà. Mais pour ce qui est du centre de la galaxie, on voit le même phénomène et on en conclut et on peut même mesurer la masse de ce trou noir totalement invisible par définition.
On déduit sa présence par les effets qu'il occasionne autour de lui. Mais alors, bon, on va quand même essayer de se projeter dans une expérience de pensée. On ne peut pas le voir, vous nous l'avez dit de toute façon, évidemment, on ne le voit pas, ce trou noir. Mais imaginons qu'on puisse y aller avec une petite navette à l'approche de ce trou noir. Ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'on verrait ?
Alors, vous pouvez vous dévouer pour la bonne cause, puisque comme vous ne pouvez pas le voir, vous pouvez toujours, en principe, l'atteindre. Si vous vous approchez, si vous vous lancez, il y en a un quelque part dans la constellation du Cygne. Oui. Il est assez loin quand même, pour l'instant, il est hors de question d'y aller. Mais, éventuellement, quelqu'un qui voudrait se dévouer, on le verrait approcher du trou noir, de la région où on sait qu'il y a le trou noir, en ralentissant progressivement jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'il se soit arrêté. Mais pour lui, c'est pas ça qu'il va voir. Lui va voir qu'il va continuer, qu'il va entrer dans le trou noir, mais que jamais il n'en sortira, jamais il ne vous enverra des informations, pas de carte postale, « Wish you were here » ou « Bon baiser du trou noir », ça n'existe pas.
Il n'y a pas la poste.
Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de moyen d'envoyer quoi que ce soit hors d'un trou noir.
Mais on comprend que les auteurs de science-fiction se soient pris de passion pour ce genre d'objet, parce que, en fait, ils repoussent les physiciens dans leur dernier retranchement. Les lois de la physique sont complètement acculées dans leur dernier retranchement, dans ces zones de l'univers.
On doit toujours être habitué à trouver des choses qui ne collent pas avec ce qui nous est familier. Ouais. Ce que nous raconte Einstein, la relativité d'Einstein, le fait que le temps ralentit, par exemple, comme on l'a entendu dans l'émission de tout à l'heure, eh bien, c'est un fait. Alors, pour nous, le personnage dit « le temps, c'est le temps », et elle lui répond « non ». Depuis Einstein, nous savons que le passage du temps change. Le temps passe plus vite au sommet d'une montagne qu'au fond d'une vallée. Pas beaucoup, très peu de choses. Mais pour le soleil, ce serait la même chose. C'est des choses qui sont vérifiées. Donc, comme elles ne nous sont pas familières, c'est à nous d'adapter notre familiarité.
Ouais. Pierre Barthélémy, ce qui est frappant avec ces découvertes qu'on apprend régulièrement, c'est qu'on a l'impression que plus on étudie, plus on se rend compte à quel point ça défie l'entendement, c'est complexe.
Il y a aussi un autre phénomène qui se passe, et c'est que plus on étudie, plus on se pose de nouvelles questions et plus on a l'impression d'en savoir moins.
Et voilà, c'est ça.
C'est assez paradoxal, mais en fait, la science, ça fonctionne vraiment comme ça. Pour revenir juste un instant sur les trous noirs et à quoi ça peut ressembler, effectivement, beaucoup de gens ont vu aussi le film Interstellar, et c'est vrai que la plupart des gens qui m'ont parlé de ce film comprenaient pas l'histoire du temps qui ralentit. En fait, ils ne comprennent pas que quand Einstein parle de relativité, ils ne comprennent pas que ça veut dire que le temps est relatif. Le temps n'est pas un absolu et l'espace, c'est la même chose. Donc en fait, même dans les mots qui semblent, les notions qui semblent les plus comprises, en tout cas dans, les plus communes dans la science, en fait, on se rend compte que les gens ne voient pas ce qu'il y a derrière les mots. Le mot de relativité générale, ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière.
On poursuit notre voyage dans le cosmos. On va s'intéresser d'un peu plus près aux étoiles dans un instant pour adresser vos questions à nos invités. Il y a toujours la page de l'émission sur franceinter.fr.
J'arrive luxe comme Yas, j'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Oh là, j'arrive luxe comme Yas, j'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Des croissants de lune sur la chaîne ou des magaines David. Fachote à la haine, on a maqué ta fille avec Uxer quand on maquette un feat. Tu mets la beuh dans le pot de Hagen Das vide. Nous c'est pas la même, on a marqué ta vie. Fous la merde comme moi, Marc Adavi. Oh mais merde, j'garde le sourire comme mes mères. Fais tourner ta potion s'te plaît, j'fais tourner ma portion de blé. On est en 2001, j'écris escrou dans le RERC. Ça galère sec quand mes potes sont de blé. Personne aimait ma gueule avant de percer. Je gagnais des battles avant les RC. T'écoutais pas de rap avant les RC. Tu ferais mieux de me remercier. J'me défoule contre tes textes pendant qu'Hakim pilote l'Audi. T'as beaucoup trop de défaites, t'as cassé les prix. Clap clap, c'est le bruit de mon public qui m'applaudit. J'aime la scène quand y'a tous mes gus dans le tourbus. J'ai fumé des forêts de séquoia. J'étais souvent un sec royal. Et maintenant, j'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Oh là, j'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Oh là. Ça fait bizarre de voir les keufs reconnaître ma tronche. J'suis sûr qu'eux aussi ils aimeraient connaître Macron. Big up à mes militaires en service que l'état trompe. Les cavous ils ne protégeront que les patrons. Tu vois bien qu'ils nous aiment pas trop. Ils se battent que pour le fric, les vies sont divisées en classes. Les voyous deviennent des patrons. Les patrons jouent les flics sont déguisés en casseurs. Ça tire des flashballs dans la tête des manifestants. Grosse patate, vas-y pose ta plaque. Dans l'équipe y'a des grosses carla. En mode Uber, grosse caisse, grosse basse. Star Black, on défrait la censure des plus sœurs sues. J'ai des frères et sœurs sûres dans plusieurs up. Mes prédécesseurs sues, j'ai des cernes si. J'suis en club ce soir, c'est que des heures sues. Sur la route en famille comme les gypsies. Tu veux un feat, je veux pas gypsy. La somme n'est jamais dérisoire quand on revient de Ressoir. Fais la transac quand y'a un parking vide. Ouais, on te rend ça. Si tu trahis, tu reçois des traces mauves sur la face comme Lamborghini. J'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Oh là, j'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Sur le terrain ou à l'arrière, à la ZZ, tu as 7 avec Catherine, on refait cette scène. Ouais, je tourne avec Catherine du 9, mais la mine vaut pas le prix d'une arme. Faut y faire, j'ai la maîtrise du mic. Qui tient les pancakes plus les roms, les plus gros fils de pute d'Europe. Et leur petite fête a pris plus de pute en robe qu'un tribunal. Zorik a plusieurs déclinaisons, maillot de hockey floqué, mon équipe et son bokeh. Je suis sûr que les animaux méprisent les hommes comme la sclérose en plaque, j'aimerais détruire les eaux. Okay. T'aimerais qu'on te regarde, mais connais-tu ton rôle? Quand y'a une corrida, je suis du côté du taureau. Ta voix est la plus belle. Ne passe pas ton charme si t'es pas quoi comme Charles. J'ai une femme white comme Walter ou black comme James qui me fait des blagues comme j'aime. Dans mon squat que des meufs bien, pas de taspé. Si une taspé vient, ça va faire des passes des namasté. J'arrive luxe comme Yas. J'suis plus David, toi t'es plus Goliath. Personne ne misait sur moi mais j'suis resté coriace. Des centimes jusqu'au lias, bébé. J'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yas. Voilà. J'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. On est nerveux, trouble fait, trop de stress. Je veux pas faire ce qu'il y a entre le S et le CREW. Nerveux, trouble fait, trop de stress. Je veux pas faire ce qu'il y a entre le S et le CREW.
J'arrive luxe comme Yos. Squat.
C'était Nekfeu, Squat, sur France Inter, dans la tête au carré.
Le satellite Kourou a réussi, et c'est une grande première, à observer pendant plus de 150 jours la même région du ciel, pratiquement continuellement. Et nous avons découvert ce que nous cherchions, c'est-à-dire des pulsations, des vibrations très ténues certes, mais distinguables dans les données Kourou, qui ressemblent à celles du Soleil. Voici le champ de 3 étoiles observé par Kourou. Vous entendez la différence dans les fréquences en passant d'une étoile à l'autre et aussi la grande différence avec le bourdonnement du Soleil. Ceci montre que ces étoiles et le Soleil ont des différences de structure et ce sont ces différences que nous essayons de préciser et qui vont nous permettre de mieux comprendre toute la diversité des étoiles.
L'astrophysicienne Annie Baglin dans le documentaire du Big Bang au vivant réalisé en 2011. Hubert Reeves, il faut que vous nous expliquiez ça. Les étoiles, à commencer par notre Soleil, chantent.
C'est une expression, je dirais, analogique.
Ouais.
Ça chante, oui, parce que ça émet des sons. Ce qui est vrai, c'est que les étoiles émettent des sons, mais qui sont à peu près toujours les mêmes pendant des milliards d'années. Donc ce serait peut-être un peu monotone si on devait les écouter. Mais cette analogie est valable. Ce sont des sons et avec des fréquences bien définies, comme une chanson.
Mais qui ne se propage pas vraiment dans l'espace, puisque l'espace est fait de vide, le son ne se propage pas.
Exactement. Et heureusement, parce que si c'était le cas, le Soleil émettrait une telle quantité de bruit que nous serions probablement terrassés.
Voilà. Bon, il faut
C'est bien qu'il n'y ait pas d'air entre nous.
C'est bien que ce soit bien isolé, d'une certaine manière. Les pulsars aussi vivent. C'est quoi un pulsar ?
Alors un pulsar, c'est comme un phare.
Ouais.
C'est une étoile qui s'allume et qui s'éteint jusqu'à plusieurs milliers de fois par seconde. Mais effectivement, comme un phare, ce n'est pas vraiment qu'elle s'éteint, c'est qu'elle tourne très vite et qu'elle émet de la lumière à partir de deux points, comme un phare. Et c'est donc, en fait, ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est le résidu à la fin d'une vie d'une étoile massive.
Alors, comme avec vous, Hubert Reeves, la poésie n'est jamais très loin. Vous avez travaillé avec le compositeur Gérard Griset à partir de ces pulsars qui émettent aussi des vibrations.
Non, c'est pas moi ça, je m'excuse.
Ah, c'est pas vous qui avez fait ça.
Non, je crois que c'est Jean-Pierre Luminet.
Ah, très bien. C'est... Avec qui vous avez écrit le livre Dialogue sous le ciel étoilé. Vous auriez pu le faire parce que moi j'ai vu à la Cité des sciences et de l'industrie un opéra cosmique auquel vous aviez travaillé pour
c'est
le
vrai,
coup.
C'est vrai, oui, oui, absolument.
Vous êtes jamais très loin de la poésie et de l'art hein, avec la science.
Ben, j'aime beaucoup.
Oui, c'est quelque chose qui vous plaît. Alors vous disiez le pulsar est une petite étoile en fin de vie, ce qui sous-entend qu'une étoile naît, vit et meurt.
C'est une des grandes découvertes de ces dernières décennies. Alors ces étoiles que l'on pensait éternelles, mais bien sûr ça change pas vite, de sorte que dans la durée de votre vie, vous ne verrez pas d'étoiles apparaître ou disparaître, ou très peu. Mais maintenant, grâce aux moyens de l'astronomie, nous avons pu reconstituer tout le scénario de la naissance, de la vie et de la mort des étoiles.
Alors prenons
c'est un phénomène régulier.
Ouais, prenons le temps de le raconter, ce scénario, alors.
Oui, alors ces étoiles, elles naissent dans la Voie lactée. La Voie lactée, c'est cette grande bande blanche que l'on voit au-dessus de nos têtes, en été en particulier, qui va du nord au sud. Dans cette Voie lactée, il y a beaucoup de gaz, il y a beaucoup de nébuleuses. Ce sont des nébuleuses immenses, mais une nébuleuse, ça n'est pas solide. Une nébuleuse, ça peut s'effondrer sous son poids. Les étoiles apparaissent quand des nébuleuses s'effondrent sur leur poids. En s'effondrant, évidemment, l'avalanche de matière produit de la chaleur. Cette chaleur fait que les étoiles ont une certaine température. Cette température va croître et elles vont briller. C'est ce qui est arrivé à notre Soleil il y a 4 milliards 500 millions d'années. C'est ce qui arrive régulièrement. Il y en a 3 ou 4 par année dans chaque galaxie. C'est un phénomène régulier, formation des étoiles. Ces étoiles vont vivre leur vie. Elles vont, pendant cette période, les étoiles sont extrêmement chaudes. Au centre, les températures atteignent des millions, sinon des centaines de millions de degrés. là, il y a des réactions nucléaires, comme celles qu'on produit dans les réacteurs. Ces réactions nucléaires vont faire quelque chose de très important et vont fabriquer des atomes. Des atomes en particulier de carbone, d'azote et d'oxygène. Ces atomes dont nous sommes nous-mêmes constitués, si vous prenez un petit peu de votre peau, vous l'analysez, en définitive, vous allez trouver des atomes, surtout de carbone, d'azote et d'oxygène. Eh bien, c'est ce qui fait que maintenant, le message de l'astronomie, c'est que nous sommes des poussières d'étoiles. Nos corps, quand vous touchez à votre corps, vous touchez à des tissus qui sont faits d'atomes, ces atomes n'existaient pas au premier temps du cosmos. Ils ont été fabriqués pendant la vie du cosmos par les générations d'étoiles qui naissent, qui vivent et qui meurent en éclatant, en distribuant leur matière dans l'espace, d'où elles peuvent être prises en charge par d'autres nébuleuses et ainsi de suite. On a continuellement dans le ciel comme ça des générations d'étoiles qui produisent ces atomes qu'on appelle les atomes fertiles, c'est-à-dire ceux qui servent pour la vie sur la Terre.
Ça veut dire que ça se recycle, ça veut dire qu'une étoile meurt et de ses poussières naissent d'autres étoiles qui allant à leur tour mourront, c'est infini.
Exactement,
alors
exactement. Ah oui, c'est ça se produit déjà depuis la naissance de notre galaxie, il y a environ 13 milliards d'années. Et ça continue un peu au ralenti maintenant. Ça a été beaucoup plus actif il y a quelques milliards d'années. Aujourd'hui, c'est au ralenti, mais ça continue.
Ça explique que vous puissiez dire dans votre dernier livre avec Jean-Pierre Luminet, dont on parlait à l'instant, intitulé « Dialogue sous le ciel étoilé », paru chez Robert Laffont, vous dites que la moitié de l'eau que l'on trouve sur Terre est plus ancienne et plus âgée que notre Soleil, dont vous nous avez dit qu'il a 4,5 milliards d'années. L'eau que l'on trouve dans les océans, pour moitié, n'est plus vieille que cela.
Oui, parce que l'eau, c'est des molécules d'eau. Ces molécules ont été fabriquées par des étoiles bien avant la naissance du Soleil, bien sûr, puisque le Soleil a pu les recueillir.
Alors, serait-il possible que la vie soit apparue ailleurs dans l'univers? On en parle dans un instant. Vous écoutez La Tête au Carré sur France Inter.
Some noise. Yeah, we stood our ground. We ran the streets every night and day. We share one key to the very place where our grandma stay.
We see them coming from a mile away.
But they know
we going nowhere, even if we are chased.
And it's true,
we got no money, but we sure got a fight.
And they can't
take that away from us, cause we're still alive.
When the fog rolls in, they can't see a thing. When the fights get real and the lights burn out, we'll be prepared. We woke up, head splitting from the sounds of the change in the streets. But it don't matter, cause our cousin fixed us something to eat. Yeah.
Thank you.
Haniel Khatib sur France Inter, dans la tête au carré.
Aujourd'hui, les astronomes touchent du doigt cette chose dont on rêve depuis des milliers d'années, l'existence d'une autre Terre. C'est en ces termes que les scientifiques ont annoncé leur découverte. Alors certes, notre cousine est plutôt éloignée, à 1400 années-lumière de chez nous, mais Kepler-452b, c'est son nom, partage avec notre planète quelques similitudes intéressantes. Avec 6 milliards d'années au compteur, notre cousine est un peu plus vieille que la Terre. Son observation permettra donc d'en apprendre beaucoup sur l'avenir de notre planète bleue.
La découverte de la planète Kepler 452b annoncée le 24 juillet 2015 dans le 7-9 de France Inter. Hubert Reeves, en moins de 20 ans, on a découvert une quantité importante de ces planètes hors du système solaire.
Oui, des milliers maintenant. Je crois qu'on doit atteindre 2000 à peu près. Et c'est un phénomène très important. On le soupçonnait. Puisque notre Soleil a des planètes, mais en science, on ne se contente pas de soupçonner. On aime avoir des preuves. Mais les étoiles sont si loin, et les planètes sont si peu lumineuses par rapport à leurs voisines, qu'a priori, ça paraissait impossible. Et heureusement, il y a eu, grâce à deux astronomes suisses, Mayor et Quenoz, en 1995, on a eu la première détection de planètes autour d'étoiles lointaines.
Alors je vous pose la question que suscitent ces découvertes, la probabilité que la vie se trouve sur ces mondes lointains.
Alors on ne peut pas calculer la probabilité de la vie, parce que pour calculer la probabilité de quelque chose, il faut savoir comment ça marche. Ouais. Si vous ne savez pas comment ça s'est produit, vous n'avez aucun moyen de calculer la probabilité. Donc pour l'instant, on est bloqué là-dessus. Moi, je préfère, pour ce qu'il s'agit de la vie, du mot plausibilité qui n'implique pas qu'on puisse calculer. Et je pense, mais c'est une opinion personnelle, que la vie existe sur de nombreuses planètes. Mais c'est une opinion et c'est pas du tout un fait. Aucun fait scientifique. Sur le plan scientifique, on ne sait pas. Nous sommes peut-être seuls, nous sommes peut-être des millions. Moi, je pense qu'on est plutôt des millions, mais c'est une opinion.
Mais alors voilà, sur quoi vous fondez cette opinion? Même si elle ne peut pas s'étayer scientifiquement, qu'est-ce qui vous pousse à dire ça?
Je la fonde sur une analogie entre le fait que dans l'univers, on a beaucoup de galaxies qui se ressemblent, on a beaucoup d'atomes qui sont toujours les mêmes, il y a une certaine régularité dans l'univers qui laisse penser qu'au niveau des êtres de dimension comme nous, disons, qu'on ne peut pas observer, ça puisse être la même chose. Mais c'est un argument qui est très discutable. Je comprendrais très bien qu'on ne soit pas d'accord.
Pierre Barthélémy.
En fait, toute la question, c'est de savoir de quelle forme de vie on parle. Est-ce que la vie en elle-même, c'est-à-dire les plus simples formes de vie sont faciles à créer? Effectivement, il y a beaucoup de chercheurs qui ont l'air de penser que oui. La question qui nous intéresse peut-être davantage, c'est est-ce que des formes de vie intelligentes, des formes de vie technologiques, communicatrices, un peu qui nous ressembleraient un peu, disons, est-ce que ces formes de vie-là existent? Là, c'est beaucoup plus difficile de trouver une réponse.
Alors, il y a de nombreuses questions que notre discussion suscite chez les auditeurs. Je vous en livre quelques-unes. Gilles, qui nous demande donc par mail à propos du Soleil. Quand les astrophysiciens disent que au cœur d'une étoile, le Soleil par exemple, il y a des millions de degrés, comment arrivent-ils à ce résultat? Quel est leur instrument de mesure?
Alors, ce n'est pas un instrument de mesure, c'est une réflexion. Vous regardez le Soleil, vous voyez qu'il est là depuis longtemps. D'ailleurs, on sait, parce qu'on observe des dinosaures et des fossiles, que le Soleil, il est là depuis probablement des milliards d'années, plusieurs milliards d'années. On lui donne 5 milliards, mais le simple fait, a priori... Alors, le Soleil, mais comment est-ce qu'il peut rester stable, lumineux comme ça depuis longtemps, étant donné que c'est un gaz? C'est pas un solide, le Soleil. C'est pas solide, c'est pas comme la Terre. Mmh. Un gaz, ça s'effondre sur lui-même s'il est livré à lui-même. Alors, comment est-ce que le Soleil peut rester stable en n'étant pas de structure solide pendant des milliards d'années? Eh bien, on connaît une réponse. Il va commencer à s'effondrer. Mais en s'effondrant, il va se réchauffer, il va créer une pression. C'est la pression provoquée par la très haute température au centre qui répond à la question pourquoi le Soleil ne s'effondre pas sur lui-même. Et quand on fait des calculs, mais on peut faire des calculs numériques avec la thermodynamique et les sciences, on peut dire quelle température il a et on arrive à très près de 15 millions de degrés. Donc c'est par des réflexions sur un simple fait, le Soleil est là depuis longtemps.
Voilà donc la réponse pour Gilles. Et maintenant la question de Jean. L'observation astronomique permet de voir le passé de plus en plus proche du Big Bang. Jusqu'ici, il a raison, hein, Jean. Mais comment appréhender le présent? Puisque finalement, quand on regarde loin dans l'espace, on regarde le passé, comment on connaît le présent?
On le sent. On le sent dans notre corps. Ouais. Vous sentez votre corps, c'est le présent.
Voilà, une réponse simple à Jean. Le présent, ça se ressent, ça s'observe pas, c'est ce que vous lui dites, hein, c'est ça. Vous vous souvenez, Pierre Barthélémy, vous avez signé dans le hors-série du Monde qui est paru mercredi dernier une interview très belle et très complète d'Hubert Reeves. Vous vous souvenez de la dernière question que vous avez posée à Hubert Reeves?
Oui, en fait, j'ai parlé à Hubert Reeves de Stephen Hawking, qui a déclaré il y a très peu de temps qu'il ne donnait pas à l'homme plus de 1000 ans pour s'échapper de notre petite planète parce que on avait tout bouffé, quoi, où on allait tout manger, tout détruire, et que c'était aussi pour cette raison qu'on devait continuer à explorer l'espace. Et je lui posais la question de savoir s'il était d'accord avec cette vision des choses.
Stephen Hawking, qui est donc un grand astrophysicien réputé, qui a travaillé sur les trous noirs et qui dit « faut regarder loin parce que bientôt... » Il faut une porte de sortie.
Voilà, il faut trouver une nouvelle maison, finalement.
Hubert Reeves, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Parce que si on n'apprend pas sur la Terre à vivre en harmonie avec la nature, qu'est-ce qu'on va faire ailleurs? On va faire exactement la même chose. Ouais. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'apprendre aux humains à vivre en harmonie avec la nature, c'est-à-dire à cesser de saccager leur planète.
Ouais. Donc, vous, ça n'est pas une porte de sortie que vous cherchez quand vous observez l'univers,
hein. Non, justement, parce que le problème, c'est que si on ne sait pas corriger, on va recommencer du pareil au même. On ne sera pas plus avancé.
C'est certainement l'une des raisons qui vous a poussé à accepter de parrainer la toute nouvelle agence pour la biodiversité voulue par François Hollande. Vous prendrez vos fonctions dès le 1er janvier prochain, hein, c'est dans quelques jours.
Exactement.
Quel est le but de cette nouvelle donc,
c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Je dois mentionner le fait que Mme Ségolène Royal a joué un rôle important dans son établissement. L'idée, c'est d'arrêter de saccager la planète. Alors, différents moyens, les problèmes sont nombreux, on les connaît, mais c'est de s'y mettre sérieusement et de réunir plusieurs agences qui séparément travaillaient sur des causes différentes, le fond des océans, les parcs nationaux, et quand plusieurs groupes travaillent séparément, il y a toujours beaucoup de temps perdu, d'argent perdu. Donc, c'est de créer une agence dynamique. Il y a des fonds financiers qui sont intéressants. Il y en a, maintenant, ça paraît de bonne allure. Maintenant, ce que ça donnera, on verra.
Oui, 225 millions d'euros, 60 millions tirés de l'investissement d'avenir. Donc, effectivement, le budget est là. Vous jouerez quel rôle dans le dispositif en tant que parrain, hein, de cette organisation?
Oui, mon rôle, c'est peut-être, étant donné que je suis connu, ça crée une dynamique, mais j'ai pas de rôle direct dans cela. Je vais suivre de près, bien sûr, ce qui va se passer. Étant parrain, je n'aurai pas la possibilité d'intervenir. Ça, c'est convention, mais c'est quelque chose que je suivrai de très près parce que c'est quelque chose qui nous donne de l'espoir. Après la COP21, c'est le deuxième élément important d'espoir pour l'avenir.
Avec en priorité, hein, pour cette agence pour la biodiversité, la préservation des fonds marins et la surpêche.
Ah voilà, ça c'est un des buts les plus importants, mais il y en a beaucoup.
Ouais. Vous êtes... inquiet, on le sent. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore faire évoluer la situation dans le bon sens, quand on voit un peu tous les dérèglements où l'homme est à l'origine de ces dérèglements?
Oui, alors il y a de quoi être inquiet, effectivement, mais ce qu'il faut dire, c'est que si on admet, si on dit c'est foutu, c'est foutu. L'important pour continuer à être en place et à être actif, c'est de se dire à soi-même, se convaincre, je dirais presque volontaristement, qu'on peut continuer. Et la réalité, c'est qu'on a beaucoup d'échos qui nous montrent que ça n'est pas foutu, qu'il y a énormément de mouvements qui se passent un peu partout sur la planète, des grandes conférences, des actions un peu partout, la COP21, cette agence... qui montre que l'humanité est en train de se réveiller. Alors, qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Mais je pense qu'il faut avoir confiance et poursuivre cette démarche. C'est fondamental si on veut que l'humanité ne disparaisse pas de la planète, parce que c'est ça qui est l'enjeu. Est-ce qu'il y aura encore des êtres humains sur la Terre dans le siècle prochain? Personne ne le sait. On faut faire comme si.
Vous avez intitulé vos mémoires « Je n'aurai pas le temps », référence à la chanson de Michel Fugain, écrite par Pierre Delanoë et chantée par Michel Fugain. Finalement, vous avez eu quand même le temps de faire mille choses, l'astrophysique, la vulgarisation, et maintenant ces engagements très concrets pour la protection de la planète.
C'est vrai, c'est vrai.
Oui, finalement, vous avez eu le temps de faire énormément de choses.
Oui, mais je suis frustré à l'idée que les revues comme Nature et Science vont continuer à paraître en nous donnant des nouvelles importantes et que moi, je ne serai plus en mesure parce que je ne serai plus accessible.
Pour le moment, profitez-en, vous êtes visiblement encore en pleine forme. Oui. Pour poursuivre l'exploration de l'univers, il y a donc cette nouvelle collection Voyage dans le cosmos que vous parrainez, donc Hubert Reeves. Le premier numéro est consacré donc à la matière noire. Et puis, je signale aussi la parution de votre dernier livre avec Jean-Pierre Luminet, Dialogue sous un ciel étoilé chez Robert Laffont. Merci à vous et puis merci à vous, Pierre Barthélémy. À bientôt dans La Tête au Carré. Et il est temps de retrouver le docteur de La Tête au Carré.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique Dupagne.
Bonjour Daniel.
Vous l'aviez annoncé la semaine dernière, aujourd'hui vous vous intéressez à l'orgasme féminin. Pourquoi ce sujet?
Daniel, c'est à cause d'une actualité brûlante, puisque nous avons célébré le 21 décembre la journée mondiale de l'orgasme. Alors quand j'entends parler d'une journée du truc ou du machin, je cherche immédiatement le sponsor qui est derrière, c'est l'habitude. Et bien pour une fois, il n'y en a pas. La journée de l'orgasme, ça a été créée en 2006 par Donna Sheehan et Paul Reffel, qui sont deux pacifistes américains.
Mais alors dans quel but?
Eh bien d'après eux, et je les cite, un nombre élevé de pensées positives liées à un plaisir sexuel quasi simultané peut modifier le champ d'énergie de la Terre et réduire en conséquence les niveaux dangereux d'agression et de violence actuels. Si jamais vous me direz qu'un remake mi-pi mi-bonobo du bon vieux slogan « Faites l'amour pas la guerre », mais j'aime bien le concept quand même. Et donc, à l'occasion de la journée de l'orgasme 2016, le Huffington Post a publié un article commentant deux publications scientifiques. Alors la première s'intéresse à l'origine de l'orgasme chez les femelles d'un point de vue évolutif. Je dis femelles car l'article est paru dans un journal de zoologie expérimentale. Attention. On y apprend que dans de nombreuses espèces, l'orgasme est destiné à déclencher l'ovulation, comme chez le lapin. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres espèces, et notamment chez la femme qui ovule spontanément tous les 28 jours. Et les auteurs de s'interroger longuement pendant 12 pages sur l'intérêt résiduel que pourrait avoir finalement cette décharge neuro-hormonale de plaisir intense. Et bien justement, le mot plaisir, il est absent de cet article, ce que je trouve quand même assez effarant. Et je trouve que le mot « rat de bibliothèque » pour qualifier certains chercheurs prend ici tout son sens.
Oui, c'est méchant ça.
Oui, mais mérité je trouve, d'autant que les auteurs, qui sont quand même un homme et une femme, commencent leur article en précisant qu'il n'y a absolument aucun débat sur l'intérêt de l'orgasme masculin qui serait indispensable à la reproduction. Je trouve que cette vision purement mécanique et reproductive de l'orgasme est incroyablement réductrice. Alors heureusement, Grégory Rosière, celui qui signe l'article du Huffington Post, il a trouvé une deuxième publication, écrite cette fois par une psychologue qui énonce l'intérêt principal de l'orgasme féminin que je vous laisse deviner, Daniel.
C'est pas donner aux femmes l'envie de recommencer?
Mais bien sûr, ça c'est un intérêt évolutif qui paraît évident et notre psychologue va plus loin. Elle s'intéresse au fait que l'orgasme ne soit malheureusement qu'optionnel pour de nombreuses femmes. Et elle émet une théorie intéressante. La difficulté pour l'homme de provoquer un orgasme chez sa partenaire constituerait une sorte de challenge qui permettrait aux hommes les plus brillants de s'attirer les faveurs répétées de nombreuses femmes.
Ça paraît assez cohérent, en effet.
Bah oui, je trouve aussi, même si personnellement ça m'arrange pas. Mais enfin, la stratégie de sélection des meilleurs géniteurs par les femmes est d'une grande complexité. Cette sélection obéit à un compromis entre la quête des bons gènes d'un mâle puissant ou intelligent, ou alors la protection conférée par un homme au rang social élevé. Mais le plaisir sexuel, ou tout simplement le plaisir de vivre ensemble, ça joue forcément un rôle important dans ce choix.
Merci Dominique Dupagne, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle affaire sensible. Aujourd'hui, Liévin, 27 septembre 1974, quand la mine assassine.